Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans notre dernière lecture partagée dans le livre Le cerf-volant de Laetitia Colombani, nous avons vu que Léna, enseignante française partie en Inde à la suite d'un gros problème familial, a commencé une activité qui lui tient à cœur. Elle commence à enseigner une jeune enfant intouchable, ou Dalit, qui ne parle pas, mais elle lui a sauvé la vie alors qu'elle était en train de se noyer. L'enfant a appelé à l'aide et Léna, reconnaissante, tente de l'enseigner. Un enseignement qu'elle tente aussi de prodiguer à un groupe de jeunes femmes très particulières. Mais Léna a oublié une seule chose. Elle doit repartir en France. Ses papiers officiels en sont témoins. Et son séjour ne peut être prolongé. Comment ce départ non souhaité du côté de Léna, comme du côté de Lalita ou des Red Brigades, peut-il se terminer si vite? Et pourtant, la voilà rentrée en France. Suivons-la. Chapitre 11. Est-ce le décalage horaire? Le changement de climat? De retour en France, Léna est prise d'un curieux sentiment. Elle a l'impression de flotter, comme si elle percevait le monde à travers une épaisseur ouatée, comme si une distance nouvelle la séparait des lieux qu'elle traverse, des gens qu'elle retrouve. De la banlieue nantaise, où elle a passé tant d'années, elle connaît chaque rue, chaque place, chaque carrefour. Elle pourrait jurer toutefois que quelque chose a changé. Au fil du temps, sa perception se précise. Avant qu'elle ne parvienne à la nommer, elle se sent étrangère à ce qui l'entoure, absente, en retrait. Comme si elle marchait à côté d'elle-même, à l'ombre de la vie qu'elle a jadis menée. Elle éprouve pourtant du plaisir à revoir ses proches, ses anciens collègues et amis, qui tous lui témoignent une sincère affection. Il l'invite au restaurant, au cinéma, lui propose randonnée, concert ou week-end, présumant qu'elle a besoin d'activité et de compagnie. Léna apprécie leurs intentions, mais n'arrive pas à savourer ces moments, ni à s'intéresser à leurs conversations. Le travail, la famille, la maison. Elle peine à s'ancrer dans l'instant présent. Ses pensées la ramènent invariablement là-bas, à Mahabalipuram, auprès de Lalita. Elle ne peut s'empêcher de se demander comment elle va, si James et Marie lui laissent un peu de répit au Daba, si elle continue à travailler, à déchiffrer les livres en anglais qu'elle lui a laissés. Léna n'a aucun moyen de les joindre, de communiquer avec eux, et ce silence lui pèse. Par chance, elle a gardé le contact avec Pretty, dotée d'un téléphone portable. Elle s'appelle régulièrement. La jeune femme passe au restaurant chaque semaine pour s'assurer que la petite va bien et qu'elle ne manque de rien. Léna est bientôt saisie d'une certitude. Il lui sera impossible de reprendre le cours de sa vie ici. Elle a l'impression de se tenir à la lisière de deux mondes, n'appartenant ni tout à fait à l'un, ni tout à fait à l'autre. Elle a voulu faire un pas de côté en entreprenant ce voyage, et ce pas s'est transformé en un fossé. Lors d'une nuit plus agitée que les autres, une idée lui vient. Une idée singulière, insensée. bâtir une école à Mahabalipuram, une école pour Lalita et pour toutes celles et ceux qui, comme elle, ne sont pas nés au bon endroit. Leur donner ce que la vie leur a refusé. Tout recommencer, repartir de zéro, accepter ce qui est. Vivre à nouveau, renaître peut-être. Dans son esprit, ces quelques mots s'énoncent si clairement que Léna pourrait jurer en s'éveillant que quelqu'un s'est penché sur elle et les lui a soufflés à l'oreille pendant qu'elle dormait. Elle ne croit ni aux fantômes ni aux esprits, mais cet appel vient d'ailleurs. Elle le sent. Est-ce François qui s'adresse à elle, de là où il est? À moins que ce ne soit la mère de Lalita que la petite s'est appliquée à dessiner. Elle rêvait que sa fille aille à l'école, a dit James. Elle a tout quitté, traversé le pays dans l'espoir de lui offrir un avenir meilleur. Léna songe qu'elle pourrait aujourd'hui poursuivre l'aventure et exaucer son souhait. Cette femme, elle ne l'a jamais rencontrée. Elle ne sait rien d'elle, mais elle lui fait un serment. Lalita saura lire et écrire. Elle s'y engage solennellement. Léna s'est maintes fois demandé pour quelle raison elle avait été sauvée ce jour-là sur la plage. La réponse lui apparaît clairement. Elle doit vivre pour créer cette école, tendre la main à Lalita et la tirer de la misère. Malgré le deuil et le chagrin, Léna veut croire que la vie est devant, toujours devant, car elle sait désormais que là-bas, tout au bout du monde, une petite fille l'attend. Chapitre 12. Lalita est assise sur le sable, immobile. Elle ne joue pas comme elle en a l'habitude. Le cerf-volant posé près d'elle, elle fixe l'horizon, comme si elle attendait de lui un signe, une apparition. Soudain, elle tourne la tête et se fige. Est-elle en train de rêver? Est-ce Léna? Mais oui, c'est bien elle! Elle avait promis qu'elle reviendrait, et elle est là! En un éclair, la fillette se lève et court se jeter dans ses bras, dans un élan si vif et si spontané que Léna manque de tomber. Lalita l'étreint comme si sa vie en dépendait. On dirait que son existence se tient là, tout entière, dans cet instant qui n'est pas seulement un moment de joie, mais porte aussi en lui l'espoir, l'affection, la confiance retrouvée. Léna est renversée par l'émotion de la fillette. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle se sent devenir mère, étrangement, en serrant cette petite que la vie lui confie. C'est un drôle de sentiment qu'elle n'a jamais éprouvé pour aucun de ses élèves, même pour les plus attachants, et qu'elle découvre ici, auprès de cette gamine muette d'à peine 10 ans. La tendresse de Lalita est un baume, un onguent, quelques grammes de douceur face au tumulte du monde qui viennent adoucir sa peine, alléger ses tourments. Au Daba, James et Marie accueillent froidement le retour de Léna. Ils semblent se demander ce qu'elle veut, ce qu'elle fait encore là. Ils n'ont pas l'air de considérer d'un bon œil le lien grandissant qui l'unit à la fillette. Lalita la suit partout, petite Jiminy Cricket, silencieuse et fidèle, guettant chacune de ses apparitions. Elle s'absente de plus en plus souvent du restaurant, lui emboîtant le pas à la moindre occasion, se soustrayant à leur autorité. Léna ne sait pas encore qu'en agissant ainsi, elle leur fait un affront dont elle paiera le prit fort. Le soir de son arrivée, elle rejoint Pretty et sa troupe au QG. Toutes sont heureuses de la retrouver. Autour du chai rituel, Lena leur confie son projet exalté. Pretty ne l'a jamais vue ainsi. Malgré la fatigue du voyage, Lena semble animée d'une énergie nouvelle, quasi surnaturelle. « Je vais créer une école pour les enfants du quartier », déclare-t-elle. « Les leçons pourraient se tenir ici, au garage, tous les matins jusqu'en début d'après-midi. La brigade disposerait des locaux le reste de la journée. Il faudrait réorganiser les lieux, repeindre les murs, vider la cour, évacuer les carcasses de voitures. On pourrait réutiliser les pneus, concevoir une aire de jeu. » Lena a pensé à tout. Elle évoque même le pauvre Banyan qui peine à émerger derrière son tas d'épaves. Libéré de ses entraves, il offrirait un ombrage appréciable les mois d'été. Elle affirme qu'elle a mûrement réfléchi son projet. Il n'est pas irréalisable. Il demande seulement du travail, du courage et la collaboration des habitants du village. Lena espère aussi le soutien de Pretty. Après tout, c'est elle qui est venue la solliciter pour les leçons d'anglais. Ensemble, elles ont allumé un feu, une petite flamme qu'elles ont entretenue de séance en séance et qu'elles ne tiennent pas de transformer. Il faudrait que ce soit une grande flambée. Pretty l'écoute sans l'interrompre. Bien sûr, l'idée la séduit, mais elle se montre prudente. Lena a-t-elle bien réfléchi? Est-elle réellement prête à s'engager? Personne ne rêve de vivre ici, soupire-t-elle. Dans la région, le quotidien est dur. Elle peut en attester. Elle n'a jamais questionné Lena sur les raisons de sa présence ici, mais semble se demander aujourd'hui ce qui peut bien pousser une Occidentale à quitter sa vie confortable pour s'installer dans un endroit si pauvre, loin de tout ce qu'elle connaît. Entre elles, il y a ce mystère, ces mots qu'elles n'ont pas échangés, ce chagrin que Lena veut taire. Un jour, peut-être, elle parlera. Elle racontera le drame qui lui a pris François cet après-midi de juillet où tout a basculé. Mais ce n'est pas le moment. À cet instant, elle veut seulement penser à son projet, à cette école qui lui donne une bonne raison de tenir debout, d'exister. Pretty reprend. Mettre à disposition le QG, pourquoi pas? Et après, où trouver les fonds pour subvenir aux travaux? Comment payer les frais de fonctionnement, le salaire des enseignants, l'achat du matériel, des livres, des cahiers? Elles ne pourront pas demander une roupie aux gens du coin. Ils n'ont pas même de quoi s'acheter à manger. Les écoles d'État bénéficient de subventions, mais il est inutile d'attendre quoi que ce soit des autorités. Celles-ci se moquent d'instruire les gosses des bas quartiers. Quant aux autorisations préalables, il faudra s'armer de patience, cheminer dans les méandres de l'administration indienne gangrénée par la corruption. Lena devra faire preuve de détermination, de confiance et disposer d'une certaine réserve de billets pour obtenir des élus locaux la moindre signature sur le moindre bout de papier. En Inde, ce type de démarche peut prendre des mois, voire des années. Lena est consciente que l'argent est le nerf de la guerre. Elle a réfléchi à différentes façons de financer son projet. Lancer des collectes dans les établissements où elle a enseigné dans le passé, solliciter ses collègues, ses amis, ses relations, établir des jumelages, des parrainages d'enfants, obtenir des dons d'organismes privés, indiens et français. Elle songe aussi à ce pécule que François et elle ont constitué durant des années. Ils rêvaient d'une maison de pêcheurs dans le golfe du Morbihan. Ils aimaient la beauté de la mer et des paysages, la douceur de l'été, les balades sur la plage au milieu des rochers. François voulait un bateau. Il disait que le bonheur ressemblait à ça, les cheveux dans le vent et les pieds dans l'eau. Il venait juste de trouver une petite masure qu'il projetait de retaper lorsque le pire est arrivé. Sans François, Léna n'a pas eu le cœur de continuer. Ce projet leur appartenait à tous deux. Comment l'aurait-elle conjugué au singulier ? Elle a renoncé à la Bretagne, à la maison dont chaque pierre lui rappelait son absence. Elle s'est exilée loin, sur une terre qu'aucun d'eux n'avait jamais foulée, vierge de tout souvenir, pour essayer de se reconstruire. Certains de leurs amis n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'elle tentait de fuir. Léna n'a pas cherché à les détromper. Le deuil est un chagrin indivisible que nul ne vous aide à porter, à chacun de s'en arranger. Il lui semble aujourd'hui qu'investir dans l'école est une juste façon de rendre hommage à François. Léna sait qu'il l'aurait soutenu dans cette voie. Il partageait le même engagement pour ce métier et les mêmes convictions depuis le jour de leur rencontre à l'université. Leur histoire n'était pas de celles qui inspirent les films bollywoodiens. Il n'y avait pas de rebondissement, pas de péripéties, pas de grandes déclarations, juste une tendresse infinie, une complicité de corps et d'esprit, un bonheur fait de mille petits riens qui ne craignent pas l'épreuve du quotidien mais s'en trouvent renforcés, un amour au long cours. Un amour tout court. Léna veut croire que l'aventure n'est pas terminée, que quelque chose de François survivra dans l'école qu'elle s'apprête à fonder. Elle aime l'idée qu'il y contribue, qu'il en fasse partie de là où il est. Priti comprend, à l'écouter, que son initiative n'a rien d'un fantasme ou d'une lubie, qu'il ne s'agit pas d'une chimère, mais d'une entreprise de survie. Il n'est plus question alors de tenter de l'en dissuader. Il faut réunir les filles de la brigade, retrousser les manches et se mettre au travail, à ses côtés. Chapitre 13. Ce matin, malgré les fortes chaleurs annoncées, la troupe est réunie au grand complet devant le QG. surmontant sa méfiance instinctive, Priti a consenti à solliciter l'aide de quelques hommes du quartier. Des frères, des cousins, des amis des filles de la brigade sont venus leur prêter main forte. En bonne meneuse, la chef distribue les tâches. Elle répartit les espaces à déblayer. Les plus charpentés s'emploieront à évacuer les épaves de voitures. Les autres se chargeront du nettoyage et de la peinture. Quant aux plus jeunes, comme Lalita, ils décoreront les murs en y traçant des mandalas. Le travail démarre à l'aube, cesse aux heures les plus chaudes de la journée, puis reprend jusqu'à la tombée de la nuit. À ce stade, il faut une bonne dose d'imagination pour voir en ce vieux garage autre chose qu'un bâtiment délabré. Qu'importe. Galvanisés par l'énergie et le charisme de Priti, tous s'activent dans l'air brûlant. La jeune femme se révèle aussi convaincante en chef de chantier qu'en entraîneuse de self-défense. Dans de grands chaudrons, ses lieutenantes préparent du riz et des lentilles pour nourrir cette armée improvisée, tandis que d'autres font cuire des chapatis. La deuxième journée débute à peine lorsqu'une des filles de la brigade se met à hurler. Elles viennent d'apercevoir un cobra sous un amas de ferraille. En un instant, l'endroit se vide. Ici, tous redoutent le célèbre Naja. On dit que son venin est l'un des plus puissants du monde. Il paralyse en quelques minutes sa proie qui, faute d'un sérum, meurt étouffée. Des dizaines d'espèces de serpents venimeux que l'on croise dans le pays, il est assurément le plus terrifiant. Priti elle-même, d'ordinaire si téméraire, a l'air paniquée et tremble comme une feuille. Quant aux hommes de bonne volonté, ils refusent de poursuivre les travaux dans ces conditions. Le cobra à lunettes n'est pas réputé agressif, mais réagit instantanément lorsqu'il est attaqué ou involontairement piétiné. Hors de question de remettre un pied sur le terrain. Léna se retrouve bientôt seule et désemparée devant la cour partiellement déblayée. Il n'y a qu'une solution, souffle Priti. Faire venir un charmeur de serpents. Ils sont nombreux dans la région et très sollicités en période de mousson. La pluie fait souvent sortir les reptiles de leur nid, causant de grandes frayeurs à la population. L'homme se présente le lendemain au garage. Originaire d'un village voisin, il paraît sans âge. La peau de son visage est sèche, aussi tannée qu'un parchemin. Muni d'une bêche à cobra, il s'avance dans la cour, chaussé de simples claquettes, comme le sont tous les gens du coin. Léna paraît effrayée, mais l'homme explique à Priti qu'il connaît son affaire. Il exerce ce métier depuis l'âge de 10 ans. Chez les Sapera, c'est une sous-caste de chasseurs et de charmeurs de serpents. Chez les Sapera, la communauté dont il est issu, le savoir-faire se transmet de génération en génération. Dans sa famille, on apprend aux enfants de 3 ans à charmer les cobras en agitant doucement le poing pour les adoucir et les hypnotiser. Cela n'a rien d'une fantaisie. c'est une question de survie. Les champs grouillent de serpents et les paysans n'ont pas les moyens de se procurer sérums et remèdes. Repérant à cet instant un trou à quelques pas du banyan, l'homme saisit sa bêche et creuse délicatement. Il finit par révéler un nid dans lequel sommeille un interminable cobra soigneusement enroulé. C'est là qu'il faut se montrer prudent, précise-t-il, en conseillant aux filles de s'écarter. Recommandation superflue. À la vue de la bête, Léna manque défaillir. Du bout de son bâton, le charmeur déloge l'animal qui se met à siffler d'un air menaçant. D'un geste rapide et sûr, le chasseur l'empoigne par la queue, à main nue, et le soulève vigoureusement, tête en bas. Ainsi tenu, il n'a pas la force de se redresser ni d'attaquer, précise-t-il à Léna et Priti ébahis, avant d'aller déposer sa prise dans un panier qu'il prend grand soin de refermer. Un cobra royal, annonce-t-il fièrement. L'espèce la plus dangereuse dont la morsure suffit à terrasser un éléphant. L'air de rien, l'homme reprend son exploration méthodique du terrain. Il ne tarde pas à revenir, chargé d'un deuxième spécimen tout aussi impressionnant que le premier. « La cour, elle est infestée de bestioles, dit-il. » Il déclare que l'opération lui prendra la journée. Au lieu du prix initialement demandé, il réclame maintenant 100 roupies par serpent. Léna et Priti échangent un regard consterné. La chef proteste, entreprend de discuter. Elle se lance dans une conversation en tamoul dont Léna ne saisit pas un mot, mais que la jeune femme s'empresse de lui traduire. Le chasseur évoque les risques, sans compter la peine qu'il encourt si quelqu'un le dénonce. Son activité est depuis longtemps interdite en raison des mauvais traitements qu'un certain nombre de charmeurs infligent aux serpents. Lui n'est pas de ceux qui leur cousent la bouche ou les écorchent vivants pour faire commerce de leur peau, mais il sera traité comme eux, envoyé en prison et condamné à une lourde amende. Comment sa famille survivra-t-elle? Les gens de sa caste n'ont pas d'autre moyen de subsister. Ils ne disposent d'aucune terre et ne savent exercer aucun autre métier. Il conclut la discussion en menaçant de relâcher sous leurs yeux les deux énormes cobras qu'il vient de capturer. Priti fulmine. Comme certains jouent du pungi, une sorte de flûte ou clarinette rustique, pour hypnotiser les serpents, l'homme sait bercer son interlocuteur d'un chant savamment préparé. Il doit répéter son laïus à tous les villageois qui font appel à lui et qui, terrifiés, sont contraints de lui céder. Après avoir tenté de négocier, la chef finit par abdiquer. La peur du cobra a raison de sa ténacité. Lorsque le charmeur quitte le QG à la tombée de la nuit, la cour est libérée de ses occupants et Léna délestée de quelques milliers de roupies. Chapitre 14. Léna est vite submergée par toutes les démarches administratives à mener. Pour assurer la gratuité de l'école aux enfants, il faut créer une ONG. Et pour cela, réunir une vingtaine de personnes acceptant de se porter garante de son projet, mettre en place un conseil d'administration, créer un acte de fiducie, procéder à son enregistrement, solliciter des subventions, sans compter le business plan à établir, la liste des financements potentiels, le tableau des dépenses prévisionnelles. En parallèle, elle va devoir obtenir l'accord des autorités éducatives et scolaires de l'État, tout en se soumettant aux lois et aux règlements établis par le gouvernement. Un véritable casse-tête indien. Elle a parfois l'impression de se perdre dans un labyrinthe sans issue. Elle passe des heures à patienter dans des couloirs bondés, des bureaux envahis de papiers, face à des employés placides qui lui signifient invariablement qu'il manque encore une signature ou un document. Elle est renvoyée de la mairie du village aux services administratifs à Chennai pour revenir à l'endroit même d'où elle est partie. Il lui faut obtenir l'accord de tel fonctionnaire malade qui n'est pas remplacé et que nul autre ne peut délivrer. Attendre que l'ordinateur en panne de tel secrétaire soit enfin réparé. Quand, par miracle, le dossier se révèle complet, il est malencontreusement égarée, Elena renvoyée à la case départ. À la manière de ces escape games, affectionnés par les élèves français, elle se sent prisonnière. À une différence près, le jeu ne l'amuse pas du tout. De ce dédale sans fin, une baguette magique pourrait ouvrir les portes, elle le sait. Elle refuse toutefois de recourir à ce genre de pratique. Une question de principe, affirme-t-elle, lorsqu'un élu local lui suggère de financer les travaux de sa résidence secondaire en échange de l'agrément convoité. Certes, ces billets coupe-fil permettrait de griller les étapes de son parcours du combattant. Mais Léna veut tenir bon, tenir droit le gouvernail de son embarcation. Non qu'elle s'accroche farouchement à sa rectitude et à une certaine idée de la moralité. Elle pourrait y renoncer comme à tant d'autres choses. Mais plutôt parce qu'elle craint de mettre le doigt dans un engrenage dangereux. Il en est des fonctionnaires véreux comme des serpents. Mieux vaut garder ses distances et les éviter. Une autre tâche délicate l'attend. Elle doit engager un instituteur ou une institutrice pour la seconder. La charge éducative de l'école serait trop lourde pour elle seule. Et puis, elle n'a pas l'intention de s'installer définitivement au village, plutôt d'y planter une graine susceptible de croître et de donner des fruits un jour en toute autonomie. Elle dispensera les cours d'anglais et Priti ceux de sport. Reste à trouver un enseignant pour les autres matières, le tamoul, les mathématiques, les sciences et l'histoire-géographie, en bref, l'essentiel du programme. L'entreprise se révèle délicate. Le pays ne manque pas de professeurs compétents, mais peu d'entre eux sont prêts à travailler auprès d'enfants dalits, affirme Priti. Il faut recruter au sein de la communauté. Inutile de chercher ici, à Mahabalipuriam, où les intouchables restent majoritairement illettrés, comme dans la plupart des villages. On y trouve plus de pêcheurs ou de vendeurs de poissons que d'instituteurs. Dans les villes, en revanche, certains d'entre eux parviennent à étudier, à rentrer à l'université, grâce au système dit de réservation, qui garantit un quota de places aux élèves issus des classes défavorisées. Léna va devoir élargir son champ d'action, sillonner les environs pour rencontrer des candidats, vérifier leur parcours et leur formation, s'assurer qu'ils sont aptes et suffisamment motivés pour ce poste exigeant. Au cours de ses pérégrinations, Léna se sent de plus en plus limitée par la barrière de la langue. Malgré le recours à l'anglais largement parlé ici et le soutien de Priti qui lui sert d'interprète, elle ne peut échanger librement avec les habitants du coin et leurs enfants. Qu'à cela ne tienne, elle décide de se lancer dans une formation accélérée à la langue tamoule proposée en ligne. Hélas, elle ne tarde pas à déchanter. Si son oreille est habituée aux fréquences étrangères, l'alphasyllabaire local lui donne plus de fil à retordre qu'elle ne l'imaginait. Elle passe des soirées entières sur les consonnes rétroflexes, doubles ou voisées, s'entraînant à replier sa langue sur son palais pour la faire claquer comme les gens d'ici. Priti et les filles rient de sa prononciation et se proposent à leur tour de lui donner des leçons. Avec elle, Léna se lance dans de joyeuses séances de conversation, ponctuées de tasses de thé. Le bruit se répand alentour qu'une occidentale a le projet d'ouvrir une école dans un quartier pauvre de Mahabalipuram. Léna est bientôt contactée par un notable de la ville, un entrepreneur fortuné qui souhaite la rencontrer. Munie du dossier qu'elle a patiemment constitué, elle se rend dans une élégante villa entourée d'un jardin planté d'hibiscus, de poinsettia et de frangipaniers. Léna comprend que son interlocuteur est issu d'une haute caste et prospère dans le e-commerce, nouveau marché émergent en Inde. Le pays n'est pas à un paradoxe près. Des millions d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable, mais disposent d'Internet et de la 4G. Léna s'étonne de voir au marché les villageois les plus pauvres sortir de leur guenille un portable dernier cri. Un filon que les hommes d'affaires indiens et étrangers n'ont pas mis longtemps à flairer. Tout en l'écoutant disserter sur cette activité florissante et les perspectives inouïes qu'elle offre, Léna se réjouit à la pensée d'avoir trouvé un donateur. Priti s'est trompée, songe-t-elle. Il existe une solidarité, une fraternité qui transcende la hiérarchie des castes et des clivages. Assurément, le soutien de l'entrepreneur lui sera précieux. Comme la laitière de la fontaine, Léna se voit déjà ouvrir une seconde classe, engager d'autres enseignants et pourquoi pas proposer un petit internat à ceux qui viendront de loin et n'auront pas les moyens de se déplacer. Hélas, le pot au lait choit et se brise à la fin de l'entretien. L'homme ne l'a pas conviée pour lui accorder son aide, mais pour lui proposer de l'engager comme préceptrice de ses enfants à lui. « Ces gosses intouchables ne valent rien, soupire-t-il. À quoi bon les éduquer ?» Il ajoute qu'à son service, Léna travaillerait dans de meilleures conditions, serait mieux payée, mieux considérée. Elle disposerait d'un logement de fonction, d'un chauffeur, de gages réguliers et conséquents, une place enviable dont rêveraient de nombreux professeurs. Léna quitte la résidence sans un mot. Elle sait que le silence est parfois la meilleure des réponses et qu'il n'y a rien à ajouter, pas d'argument à opposer à tant de mépris et d'ignorance. Elle entrevoit à cet instant l'abîme qui sépare les hautes castes des plus infortunés. Depuis des siècles et des siècles, ce gouffre béant qui engloutit des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, et que personne ici, non, personne, ne semble vouloir combler ni refermer. En cette fin de chapitre, nous laissons Léna complètement déçue après son entretien avec ce notable de la ville. Elle avait pensé que cet homme d'une haute caste serait le richissime donateur qui l'aiderait à parfaire la création de cette école. Mais ce n'est pas le cas, Au contraire, Léna est déçue et meurtrie. Elle a maintenant mieux compris les problèmes des castes. Mais elle n'a pas résolu son problème. Pour connaître la suite, écoutez notre prochaine lecture. Suivez-nous sur Radio Alliance Plus. Émission Je lis pour vous, en direct sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et DA+, mardi, mercredi à 21h30. Rediffusion lundi et mardi à 6h. Ou sur le site de la radio en podcast. www.radioallianceplus.fr. À bientôt.